Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'OASP, un organisme dédié à la sécurité des applications web, avec Sébastien Joria. Et ce soir, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, donc l'OASP, qu'est-ce que c'est?
Alors l'OASP, c'est très très vaste. L'OASP, on va résumer en quelques mots. L'OASP, en fait, c'est une communauté globale qui est née dans les années 2000, en 2001 exactement. Donc c'est une communauté où on va retrouver des tonnes de choses telles que un site web déjà de base, HTTPS, /oasp.org, et puis à partir de là, vous allez retrouver soit des documents, des projets, des podcasts aussi, on a nos podcasts à nous aussi, des mailing lists, des API, des outils, enfin beaucoup de choses. Il nous faudrait à peu près 3 ou 4 ans de podcast Nos Limites Sécu pour faire le tour. Voilà, alors...
Et tout ça dédié à la sécurité des applications web.
Ouais, non, tout ça dédié à la sécurité des applications tout court. L'OASP, ça veut dire Open Web Application Security Project. Néanmoins, le W qui est entre le O et le A, qui s'est glissé au moment où le OASP a été fondé, aujourd'hui, si tu veux, on va retrouver aussi bien des choses qui peuvent toucher aux applications mobiles, aux Internet des objets ou à d'autres choses à partir du moment où c'est application en fait. Donc, bon, le W qu'on a parfois, certains le nomment Open World Application Security Project. Tu vois, enfin, s'il n'y a pas de. Il y a Open Web, ça c'est initialement, mais. C'est vraiment dédié à la sécurité des applications. On n'a pas, alors on a un gros focus web, mais en soi-même, on a d'autres types de choses derrière.
Mais attends, vous faites du cloud aussi ou...
Alors, il y a des choses autour du cloud. La question, c'est plus de voir si ça a un intérêt le cloud par rapport à l'OASP. Il y a quelque chose qui a été initié qui s'appelle un top 10 cloud. Il n'a pas vécu très longtemps, il existe. Il a été en partie repris, je crois, par la CSA et par l'ENISA à une époque. Mais voilà, enfin, il n'y a pas. On ne fait pas tout. Vraiment, théoriquement, la baseline de l'OASP, c'est Make Application Security. Visible ou quelque chose comme ça. Enfin, l'idée c'est de rendre visible tout ce qui est sécurité des applications en fait.
Donc, tu peux préciser pour les auditeurs que CSA c'est Cloud Security Alliance. Sinon ils vont croire que le CSA a fini par contrôler Internet.
Ouais, surtout en ce moment en France.
Alors l'OASP, vous êtes organisé comment?
On est organisé, grosso modo, à la base, il y a une fondation américaine. Donc, une fondation américaine 501 C3, je crois. L'idée, c'est que tous ceux qui donnent du pognon aux US en tant que boîte peuvent, par rapport à ça, déduire des impôts. Voilà. Ça, c'est si tu veux le cœur. Donc c'est tout ce qui drive, tout ce qui est argent, finance et puis relations, je dirais réellement officielles vis-à-vis des autres organismes. Et ensuite, on est organisé par chapter. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu l'ISACA. L'ISACA est organisé aussi par chapter. Un chapter, c'est quoi? C'est soit une association type association loi de 1901 comme en France, soit des gens qui se regroupent dans une zone géographique qui peut être un quartier, qui peut être une ville, qui peut être un état. Il n'y a pas officiellement de taille pour un chapter. qui se réunissent et puis qui parlent d'application security. Voilà. C'est la manière dont c'est organisé. Alors, en Europe, il y a une fondation européenne qui est basée à Bruxelles pour des raisons encore financières. Et puis, après, les chapters en Europe, c'est un peu en fonction des pays. En France, il y a officiellement une association, loi de 1901, qui est la seule à avoir le droit de représenter l'OWASP en France aujourd'hui. On est à peu près le seul pays un peu atypique. Par exemple, en Suisse, il y a l'OASP Genève, l'OASP de manière générale sur toute la Suisse. Il y a l'OASP Zurich. Voilà. En Allemagne, il y en a à Berlin, il y en a à Francfort, à Hambourg. Et puis il y a un OASP Deutschland. Voilà, donc les organisations sont grosso modo assez souples. Le principe est le principe open source habituel, c'est-à-dire que toutes les bonnes volontés sont là et on se regroupe pour faire quelque chose, quoi.
D'accord. Et toi, donc tu présides ce chapitre français?
Ouais, je préside le chapitre français et l'association française. Voilà. Donc le rôle d'un président de chapitre ou de chapter leader, c'est de faire du bruit et d'organiser des choses. Par exemple, d'organiser régulièrement des meetings. Alors on a une obligation de faire des meetings, enfin de faire 4 meetings par an par chapter minimum. Donc un meeting, c'est quoi? Ça, par exemple, un 5 à 7 comme on en a fait l'an dernier. Ça peut être un meeting au sein d'un groupe d'utilisateurs, comme on l'a fait là il y a le mois dernier au Java User Group de Lille. Voilà, enfin, on est dans l'obligation de faire 4 meetings par an. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire ce qu'on veut autour en termes de meetings, d'organisation, de participation à des conférences, de participation à des groupes d'influence sécu. Voilà, enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de limite, c'est grosso modo un job en partie marketing. On market la sécurité applicative et puis un job technique aussi sur soit des présentations, soit des participations à des groupes de travaux, à des réflexions, à des projets de traduction, des projets tout court. Sur un sujet de sécurité applicative. Voilà.
Ouais, concrètement, qu'est-ce que vous faites en France? L'ANSSI, dans ses cartons, a des projets de label sécurité applicative ou...
Alors, en France, on travaille avec le CLUSIF pour essayer de faire des choses. On a sorti deux documents, on va essayer d'en sortir un troisième. Avec l'ANSSI, c'est un peu compliqué. Je dirais qu'avec l'ANSSI, les relations sont connues, mais on fait rien pour l'instant. Voilà. En dehors de ça, on est en cours de traduction d'un des guides du guide de test, en fait, qui est sorti l'année dernière en France. On a traduit le top 10. Il y a maintenant 2 ans, on le traduira l'année prochaine quand il va sortir la nouvelle version. Voilà ce qu'on fait. À côté de ça, effectivement, il y a d'autres projets plus personnels. Il y a un projet autour de l'ISO 27034 dans lequel je suis impliqué et un projet autour de SonarQube dans lequel je suis leader, mais ça aurait pu être un projet qui n'était pas franco-français en fait.
Alors tu parlais de l'OWASP Top 10, on peut dire que c'est un document référent de cette organisation. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots?
Alors oui, le Top 10 en fait c'est un document qui est très connu. En premier, il est très connu pour une simple et bonne chose. C'est qu'il a été cité très 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 en amont dans la création du PCI DSS. Donc, dans le PCI DSS, il est écrit noir sur blanc un certain nombre de choses qui se réfèrent au top 10, déjà. Donc, ce qui a permis de diffuser le document de manière assez importante au sein de la communauté sécurité, si je peux prendre ce mot. À côté de ça, il est cité par pas mal d'organismes en tant que document de référence sur les risques à couvrir autour d'une application et entre autres une application web. Donc, il est en partie cité par l'ANSSI, justement, dans le doc de sécurisation des applications web. Il est cité par pas mal d'organismes US. Et puis, aujourd'hui, il est dans beaucoup d'entreprises repris dans les politiques de sécurité comme un des documents à suivre au niveau du développement de la sécurité des applications dans les équipes de développement, en fait. Voilà. Donc, et à la base, un document surtout de sensibilisation qui permet de comprendre les risques, de donner des premières pistes de sécurisation et d'ouvrir les chakras du développeur vers d'autres guides ou d'autres solutions que l'on peut retrouver, que ce soit au sein de l'OWASP ou, je dirais, en dehors de l'OWASP. Tels que des liens vers les guides de l'OWASP ou vers la CWE, vers le Sens, voilà, enfin, sur le Cert Secure Coding, l'ensemble des documents de référence de sécurité applicative.
Donc, qui sont en fait des docs de bonnes pratiques de développement.
Alors, certains, c'est des docs de bonnes pratiques de développement, effectivement. Il y a un guide de développement pur et dur. Donc, il explique comment coder correctement une authentification, comment coder correctement une habilitation, comment coder correctement la gestion des erreurs. Et puis des guides, comment faire une revue de code, comment tester la sécurité d'une application, comment contractualiser avec un sous-traitant qui va développer une application pour que cette application soit sécurisée. Comment vérifier la sécurité au sens large d'une application, comment concevoir une application sécurisée.
Oui, parce qu'effectivement, dans le top 10, le top 10 décrit juste les problématiques. En gros.
Ouais, il décrit les problématiques, il décrit quelques solutions, il explique d'où ça vient, et puis il donne des pointeurs, en fait. Voilà, vers des API, vers des docs, peu importe, mais vers un certain nombre de liens qui permettent, par exemple, sur une injection, de se dire, bon, ben voilà, une injection, c'est générique. Si j'ai du LDAP, comment je fais? On est renvoyé vers la CWE, qui, elle, te dit, voilà, si tu as du LDAP, pour éviter les injections LDAP, faut faire comme ça. Voilà. Donc, qui est vraiment une doc plutôt applicable, en fait.
Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ces guides, ils se destinent aux développeurs.
Alors, certains se destinent aux développeurs. Certains se destinent aux pentesters. Le testing guide, par exemple, se destine plutôt à des pentesters pour avoir un référentiel et expliquer des scénarios pour les pentesters qui veulent suivre une méthodologie. Ils peuvent servir à des responsables de cellules de test pour automatiser et mettre en œuvre je dirais des tests automatisés ou réguliers dans la chaîne de développement. Il y a des guides qui sont destinés directement au CISO. Il y a un Application Security for CISO qui existe. C'est un guide qui décrit la sécurité applicative pour un RSSI. Il y a le guide de contractualisation. Donc lui, il est plutôt destiné à quelqu'un qui va mettre en œuvre un contrat d'outsourcing avec une boîte sur du développement. Donc soit à des achats, soit un responsable de projet. Il y a des guides qui permettent à un responsable sécurité applicative de mettre en œuvre une démarche, comme l'OpenSAM, par exemple. Voilà, donc on cible pas que les développeurs, on cible un peu toute la communauté du développement. Quand je dis communauté du développement, ça part je dirais, du chef de projet qui est en amont, en passant par les architectes, en passant par les développeurs, en passant parfois par aussi les CISO ou les personnes qui en fait produisent des expressions de besoin, voir les gens qui contractualisent. Et puis, oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les développeurs, comme les cheat sheets, comme les guides de développement, comme les API, comme, voilà, enfin, comme tous ces outils-là. Mais il n'y a pas que les développeurs, en fait.
Il y a encore de l'édition logicielle en France.
Ah oui, tu as encore Dassault System, tu as encore Murex, même si ces deux gros qui, en partie, le font à l'étranger, mais ils ont encore des gens en France.
Globalement, l'idée, ma question, c'est vous faites du support sur ce guide? Enfin, comment ça se passe? Parce que tu en fais la promotion, mais tu attends que les gens t'appellent pour que tu ailles leur expliquer? Ou c'est quoi le
Alors.
statut de l'OWASP par rapport à sa production? Il y a un numéro vert où tu peux.
Oui, il y a un numéro vert, c'est la mailing list en fait. Ça, c'est la mailing list. Et en fait, après, bon, bah, la communauté répond. Après, c'est vrai que pas mal de guides sont assez autoportants en fait. Donc, on s'aperçoit que il y a quelques organisations qui demandent à l'OWASP d'effectuer des formations, chose qui n'est pas aujourd'hui faite par la fondation. Ni par l'association française. Enfin, on a bien fait un training en 2011, je crois, de tête. D'ailleurs, tu étais là, je crois, Nicolas, ce training, si je me souviens bien, tu avais même pris deux plateaux repas, tellement tu avais faim.
La vache, il y a des dossiers qui ressortent là.
Dossier, j'en ai d'autres, des dossiers.
J'avais pris deux plateaux repas parce qu'il n'y avait pas de goodies, donc j'étais frustré, j'avais besoin de manger.
Voilà. Non, mais voilà, enfin, il y a pas de, enfin, c'est assez autoportant malgré tout. Bon, bah, de temps en temps, certaines organisations nous demandent de venir présenter. Donc, il y a des choses qu'on fait gratuitement, effectivement, c'est-à-dire qu'on se déplace pour pendant 1 heure sensibiliser les gens, maximum 1 heure ou 2. Et après, on leur dit gentiment d'aller voir les sociétés de la place française qui forment à ce type de demande s'ils ont vraiment besoin de se former. Voilà. Pour être concret, c'est comme ça que ça se passe. C'est en allant dans les groupes d'utilisateurs qu'on fait la promotion et des pseudo-supports de choses. J'entends par là, on a au sein de. Par exemple, les Java User Group, on va faire une présentation d'une heure, 1 heure et demie sur du secure coding pour Java. Et puis, on va s'arrêter là. Et après, si les gens veulent aller plus loin, ceux qui sont dans la salle, on leur dit de se retourner vers les entreprises de la place qui forment au secure coding, par exemple. Voilà. Donc, le support est très limité aujourd'hui de la part de l'OWASP pour tout ce qui est purement, je dis bien purement guide et API, etc. Après, on les oriente vers des consultants ou des sociétés de consultants. Voilà. L'OWASP n'a pas comme vocation à, pour l'instant, faire du commercial. Nous sommes une structure associative type loi de 1901, type non-profit aux US. Voilà.
Oui, enfin, ça reste. Je veux dire, les US, ils font quand même tout dans l'idée. Comment dire, qu'il peut y avoir des ramifications commerciales derrière, quoi. C'est pas du.
Voilà. Et de toute façon, il y a des ramifications commerciales derrière. Faut pas se leurrer d'une manière ou d'une autre. Il y a des ramifications. Il y a beaucoup aujourd'hui de. Il suffit de taper formation au Ask Top 10 sur notre ami Google ou sur notre ami Bing pour ne nommer que ces deux-là. Et on va voir un certain nombre de sociétés qui vendent des choses autour du Top 10. Hein, voilà. Après, directement, il n'y a pas de choses qui arrivent à la fondation. La seule chose qui arrive à la fondation en termes de financiers sur des formations, par exemple, c'est lors des conférences au OWASP. D'ailleurs, je fais la pub de la prochaine qui a lieu du 19 au 22 mai à Amsterdam. Il y a la prochaine conférence Application Security Europe qui a lieu. Et en fait, lors de ces conférences, c'est un peu comme dans les Black Hat, c'est-à-dire que tu as maximum 2 jours de formation et puis après 2 à 3 jours de conférences en fait. Et lors de ces conférences, on a une partie du training qui est redonnée à la fondation, en fait. Alors que le reste du temps, non.
Ok. Parce qu'il y a un certain nombre de projets de développement. Je pense, j'ai eu l'occasion d'assister récemment à une conférence où un gars parlait des règles pour mode security qui étaient développées avec l'argent de l'OWASP.
Ouais.
Et il disait que c'était scandaleux. En gros, le projet n'a pas bougé depuis 3 ans. Enfin, les gars avaient commité un truc sur GitHub. Ensuite, le projet n'avait pas bougé depuis 3 ans et ils s'en servaient en disant, regardez, nous sommes des contributeurs majeurs de l'OWASP et tout, et on peut vous faire des règles sur mesure et c'est payant, quoi.
Ouais, enfin, alors.
C'est un peu le modèle des jeux iOS freemium ou.
Je suis conscient et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est souvent le cas dans certains projets. Maintenant, quand il y a des choses comme ça qui se passent après, si tu veux, rien n'empêche de saisir le. Alors, on a un déontologue. Il y a un déontologue, il y a un poste de déontologue au sein de l'OWASP. Et quand il y a des choses comme ça, bah, il suffit de faire appel au déontologue. Donc, c'est souvent un autre membre ou voilà, qui estime que ce n'est pas justifié ce qui se passe. Par exemple, à une certaine époque, il y avait une certaine société française qui utilisait la marque OWASP en disant qu'ils étaient membres alors qu'ils n'étaient pas membres. Et donc, dans ces cas-là, c'est remonté à la fondation qui ensuite peut lancer ses foudres, quel qu'il soit, pour gérer le sujet. Et qui, dans ce cas-là, s'est traduit par tout simplement le fait que les gens ont retiré de leur plaquette commerciale de tout ce qui était communication le fait qu'ils étaient membres de l'OASP, surtout qu'ils n'étaient pas membres de l'OASP, c'était une personne au sein de l'entreprise. Voilà. Donc après, voilà, il y a un certain nombre de choses, effectivement, c'est comme les gens qui un jour ont commité un truc ou ont fourni un patch à la fondation Apache ou un patch à des sessions de Linux et qui disent qu'ils sont des contributeurs Linux. Enfin, on en trouvera toujours, hein. De toute façon, c'est le problème de l'open source, hein. Donc oui, on sait qu'il y a des gens qui abusent et on essaye de faire la chasse aux abus à chaque fois. Voilà.
Ok.
Il y a beaucoup de discussions à la fondation en fait sur la légitimité de la part de la fondation de faire des formations et de faire des certifications, de labelliser des gens en fait. Mais si on parle de label, ça va me rappeler et ça va te rappeler le PACI par exemple. Et donc, c'est pas évident de labelliser des choses. Donc, c'est encore qu'à l'état de discussion depuis que j'ai rejoint l'OWASP, on en parle, en fait. Donc, ça fait presque 10 ans, en fait. Voilà. Donc,
tu citais l'ISACA tout à l'heure. De toute façon, je pense que ça me semble pas évident à mettre en place. Quand tu es une organisation non-profit, parce que déjà ça demande beaucoup de moyens de contrôler, etc. Et en plus, je pense que derrière, il peut y avoir un choc entre la vision américaine et la vision française du sujet, où en Amérique, tu es très compliance, alors qu'en France, on n'a pas.
Enfin, de toute façon, en France, on va être tous obligés de se compliancer à l'ANSSI. Quoi qu'il en soit, donc ça va résoudre le problème de la compliance. Hein.
Tu vois, moi j'en suis pas si convaincu. Tu disais un truc justement sur le RGS qui est poussé à grands frais par le gouvernement, etc. Et en fait, il y a des initiatives européennes justement pour des identités numériques européennes. Et en fait, leurs exigences sont bien moindres que celles du RGS V2. Donc, et je pense que même au niveau européen, je ne sais plus qui disait encore récemment qu'il fallait avoir un marché numérique européen, des choses comme ça, je pense qu'on ne pourra pas toujours jouer dans notre coin et avoir nos propres labels.
Enfin, ouais, techniquement. Je ne sais pas si on pourra avoir notre propre label ou si on va dériver ou intégrer l'Europe ou je ne sais pas quoi. Enfin, l'avenir nous le dira, mais d'une manière ou d'une autre, déjà, il y a un sacré ménage qui est en train d'être fait avec le PACI, il faut être honnête. Hein, ça fait du ménage pas forcément combien. On perd des capacités de certaines boîtes qui sont très bonnes sur des sujets bien pointus pour le côté audit. Avec ce qu'ils ont prévu sur le P10 et le PRIS, je suis pas sûr que ça va pas faire le même problème, mais de plus en plus, de toute façon, enfin, moi je travaille dans une boîte où on voit que les clients nous demandent ces labels parce qu'on leur a dit qu'il fallait des labels. Voilà. On est de plus en plus sur ces labels, sur ces compliance, que ça soit en sécu technique ou en sécu gouv ou en je sais pas quoi. Enfin, on demande à un consultant certifié machin, certifié bidule, et s'il l'est pas, on passe à une boîte qui l'est, même si elle est moins bonne, quoi. Donc je pense que le WASP aurait son coup à jouer sur l'application security, mais comment dire, il faut regarder qui est au board et on comprendra pourquoi c'est difficile. Voilà.
Alors pour ceux qui ont pas, qui nous écoutent dans leur voiture et qui n'ont pas internet sous la main,
au board, il y a beaucoup de gens qui sont des fournisseurs, des prestataires, des sociétés de consulting qui vendent de la formation, qui vendent des choses comme ça et qui ont un revenu assez important sur ce sujet et qui ne voient pas d'un bon œil que ça soit la fondation qui le fasse, tout simplement. Donc voilà, pour être concret, c'est ça, hein, c'est une histoire politique comme il y en a à plein d'endroits, mais ce point-là est assez important en termes de blocage pour aller plus loin aujourd'hui, parce que je pense que de toute façon, la fondation a les reins assez solides pour mettre en place un programme de certification des compétences, de certification des gens, etc. L'ISACA a très bien réussi avec le TIDA, le CISM et le CRISC et je ne sais plus quoi là. En 2008, on aurait très bien pu, au moment où l'ISC2 a lancé le CSSLP, là, certifié de, je sais pas quoi, LifeSec professionnel, l'équivalent du CI, mais pour le développement, eh bien, on aurait très bien pu le faire au sein de l'OWASP. On avait de quoi le faire, mais il y avait encore une fois une problématique politique qui était que ça risquait de manger les parts de marché de certains, quoi. Donc c'est pour ça que ça ne s'est pas fait à l'époque et depuis ça avance pas pour toujours les mêmes raisons. Voilà, parce qu'on a les reins financiers assez bons pour ça. Il y a la mécanique, il y a des gens à temps plein au sein de la fondation en fait pour faire ces choses-là.
En France, vous êtes combien justement ?
En quoi ?
De l'OASP.
Ben, ça dépend si on compte juste les membres ou juste ceux qui sont dans le chapter en termes de membres du chapter. En termes de membres du chapter, par rapport à la fondation, il y a une vingtaine de personnes qui sont cotisants à la fondation. Mais si tu veux, c'est comme cotiser une association, hein. Tu peux cotiser une association et jamais rien faire. Et puis à côté de ça, il y a quatre personnes actives entre guillemets qui sont au sein du board, quoi. Voilà. Effectivement de promouvoir pour l'instant qu'autre chose.
D'accord. Et est-ce que tu peux profiter peut-être de
On a toujours besoin de gens, on a besoin d'argent, on a besoin de gens, on a besoin de.
Pour faire quoi ? Alors, des gens pour faire quoi ?
Ben, on a besoin de gens pour présenter des choses parce que on fait appel à la communauté régulièrement pour les meetings en disant voilà, enfin, venez nous présenter des choses. Des gens qui ont envie de présenter des choses peuvent nous contacter directement et puis on est capable de monter des meetings. Si les choses sont intéressantes en dehors des meetings qu'on a prévus, on peut même faire comme on l'a déjà fait avec Montréal entre autres, des hangouts en live pour les meetings. Enfin, tout est envisageable. On a besoin de personnes qui mettent à disposition des lieux. Alors, on a une relation privilégiée avec Mozilla qui nous met à disposition son espace assez intéressant. On est en relation avec différentes universités, entreprises et autres, je dirais, endroits intéressants pour faire des meetings. Voilà, enfin, les bonnes volontés, elles sont là, elles sont sur les traductions, parce qu'on nous demande de plus en plus de documents traduits. C'est un peu étonnant, mais on a beaucoup de gens qui nous demandent des documents en français. Et ça m'étonne un peu, mais bon, on répond à la demande quand il y a besoin. Voilà, enfin, c'est ce sont nos besoins. Et puis de whisky et de bière pour ceux qui sont fatigués le soir.
Ah, tu veux dire que il y a free beers?
On pourrait dire ça.
Enfin, c'est une question assez générale par rapport aux trucs qui sont développés pour le WASP. C'est quoi la licence, tout ça? Tu vois, si tu fais une traduction, tu as les trucs de propriété intellectuelle.
Ça dépend des projets, en fait. En fait, tout ce qui est fait à l'OWASP est fait sous un cadre de projet OWASP. Et en fait, un projet OWASP détermine sa licence. Sachant que l'OWASP pousse de manière assez forte l'utilisation de la licence Apache. Enfin, voilà, c'est pour être clair. Mm-hmm. On ne pousse pas à l'utilisation de la GPL, on pousse l'utilisation de la licence Apache ou de la BSD éventuellement, et des dérivés de ces deux licences. L'idée étant que on n'oblige pas les gens qui vont utiliser les outils, qui vont utiliser les API, qui vont utiliser les guides, à d'une manière ou d'une autre tout remettre dans le domaine public s'ils le changent. Voilà. Par exemple, je crois que le top 10 de tête est disponible en CC by ESA. Ça, c'est majoritairement pour les docs. Après, sur les projets, c'est effectivement, ça dépend du leader du projet. Mais ce qui est encouragé, c'est ce type de licences qui sont les Apache et les BSD, en fait, histoire qu'on puisse reprendre. Voilà. D'ailleurs, on a un certain nombre de contributeurs d'outils ou de bibliothèques. Je pense à Google avec la bibliothèque Kaja, qui est une librairie de validation en JavaScript et en Java, qui a redonné le code de cette bibliothèque à l'OWASP dans le Java HTML Sanitizer et en partie dans la même chose en JavaScript, en fait. Donc voilà, on a des contributions qui viennent d'ailleurs et qui sont redonnées en licence Apache à l'OWASP.
Et donc concrètement, bon, à part les free beers, si tu nous fais un elevator pitch sur le WASP, c'est quoi les motivations pour une entreprise pour vous rejoindre ou pour pour un bénéficiaire et pour un user et pour un contributeur, on va dire.
Alors pour un end user, le bénéfice, c'est d'avoir des réductions aux entrées des conférences au WASP, de recevoir des stickers. Non, pour une personne directement, je dirais une personne physique, il n'y a pas d'intérêt énorme. C'est vraiment sur de la contribution à un projet open source. Voilà, ça c'est la première chose. Pour une entreprise, aujourd'hui on a un membre entreprise en France que je peux citer parce qu'il est public. On en a un autre qui est pas public dont je ne le citerai pas, mais celui qui est public en fait, c'est Gemalto. Donc, qui est un sponsor pour une entreprise comme Gemalto, c'est de la visibilité marketing et c'est potentiellement la capacité à influencer un certain nombre de besoins et de proposer des projets ou de l'idée des projets qui vont être mis dans la communauté en open source. Voilà. Donc, on a des projets, par exemple, qui sont importants, qui ont été remis en open source, qui s'appelle OpenSAM aujourd'hui. Initialement, ça a été développée avec le sponsoring de Microsoft et de HP, enfin Fortify, pour le bien de peut-être ces entreprises, mais en tout cas, au final, ça a été remis dans la communauté. Donc voilà, donc pour une entreprise, la capacité à développer des projets, à sponsoriser des projets tout en défalquant de ses impôts les choses, quoi.
Ça marche en France, hein, les réductions d'impôts? Parce que il me semblait qu'en France, il fallait passer par des systèmes franco-français de crédit impôt recherche et autres, mais...
Ouais, il y a des possibilités en France. C'est un peu compliqué, comme tout en France, mais il y a des possibilités de déduire en partie une partie des sommes données à la fondation de ses impôts. Mais c'est bon, faut nous contacter, on nous donnera la procédure au besoin. Mais c'est vrai que c'est pas simple en France. Aux US, c'est beaucoup plus simple, par exemple.
C'est justement pour ça qu'ils font une fondation américaine, parce que aux US, c'est simple et tout est prévu. Mais c'est vrai qu'en France, il faut rentrer dans les clous de ce qui est prévu, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais bon, il y a une fondation aussi européenne, donc il semblerait que ça soit plus simple à travers la fondation européenne. Je suis pas juriste, hein. A priori, il y a beaucoup plus de facilité. Voilà, donc... Donc voilà les bénéfices pour une entreprise. Après, il y a quand on a une entreprise partenaire qui demande un certain nombre de choses autour de, je dirais, de la partie sensibilisation, on peut avec le budget, parce qu'en fait, lorsqu'une entreprise donne à la fondation, elle dit qu'elle donne à la fondation, mais pour tel chapitre. Et le chapitre, en fait, touche 40% de la somme. D'accord ? Donc, quand une entreprise française adhère à la fondation et dit, voilà, moi, j'ai adhéré à la fondation, j'adhère à l'OASP, mais je veux que me rattacher au chapitre France. Et donc, la France dispose d'un budget de 40% de la somme qui a été donnée par l'entreprise. Et avec ce budget-là, potentiellement, le chapitre peut faire des événements au sein des boîtes partenaires. On va trouver que c'est de la formation détournée, que c'est des choses comme ça. Mais c'est pas forcément le cas. On peut venir pour une heure pour expliquer des guides ou présenter l'ensemble des guides OASP. Voilà. Enfin, mais ça s'arrêtera à des choses comme ça, sans pour autant que la boîte paye. Mmh. Voilà un peu l'idée.
Tout à fait.
Voilà. Donc on fait des choses comme ça. On fait des choses comme ça, mais c'est au cas par cas. Et bien sûr, ça nécessite que la boîte ait payé. Et que ça soit pas et que ça soit un client final, comme on dit, et non pas une société de service.
Bon, eh bien, merci de votre attention. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
À bientôt.
À bientôt.